Amis auditeurs du Beau-Canton et de toutes les belles régions du monde, toujours en direct ici au Festival interculturel du Conte à Chigny, et à ma table, eh bien j'ai le privilège et l'honneur d'avoir Marc Laberge, qui est à la base un photographe, un ethnographe et bien sûr un écrivain, mais surtout un conteur invétéré du Québec. Marc, bien le bonjour.
Bonjour Jeff.
Alors, à côté de toi, il y a Sabine. Alors Sabine, je ne la présente plus, Verhelst, qui est la responsable de la Fédération des conteurs professionnels. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant... De Belgique, ah oui, de Belgique, parce qu'il n'y en a pas beaucoup ailleurs. Donc, moi la question, Marc, toi qui as un œil de photographe, je parle du photographe parce que, est-ce qu'il ne faut pas être un peu artiste avant de devenir, ou sans vouloir être conteur à la base?
Je ne sais pas s'il faut être artiste. Peut-être une âme artiste, oui, je le pense. Photographe, ça peut être ça, mais ça peut aussi être autre chose.
Oui, là.
Mais je pense
oui.
que ça demande peut-être un sens de la parole, de la langue, du récit, et le goût de la communication, du contact, parce oui. que c'est aussi une... Le conte, c'est beaucoup une façon d'entrer en communication avec oui. l'autre. Alors, c'est un petit peu un mélange de tout ça, être conteur. Hein? C'est pour ça que des fois, c'est peut-être difficile de définir un conteur, parce qu'il y a quelque chose d'indéfinissable, d'impalpable dans ce métier, dans cet art.
Alors, comme c'est un art, tu es d'accord avec moi, Sabine, on a une difficulté dans ce qui est culturel et artistique, dans le monde entier, de faire reconnaître les artistes à leur juste valeur, qui est une chose, que ce soit conteur, artiste de rue ou artiste en lui-même. Et on était en train de parler hors micro qu'il était assez marrant de constater que vous avez les mêmes possibilités de vouloir faire bouger les choses et vous aviez des points communs dans votre... Alors, toi, du côté de Montréal, parce que tu étais quand même le responsable du Festival interculturel de Montréal depuis 1993, c'est ça?
93,
oui, merci. Donc, voilà, et tu as été pendu jusqu'en 2015, hein, c'est ça?
Oui.
Ouais, donc, alors, est-ce que tu as des conseils peut-être à apporter ou à dire à Sabine, voilà, qu'est-ce que... Vous faites comment?
Je dirais que des conseils comme tels, je sais pas, parce qu'en fait, c'est toujours très particulier hein, au pays, à l'organisation, aux structures gouvernementales. Faut vraiment avoir une sensibilité ou une connaissance, si on veut, de son propre pays pour oui. Voir comment on peut intervenir et de quelle manière, quelles sont les stratégies. Donc, il n'y a pas de recette pour ça.
Pas de recette.
Non. Ouais. Non. Ça dépend beaucoup des ministres aussi de la culture en oui. place. Et donc, la ministre actuelle, qui est Alda Grioli, a reconnu notamment la Fédération des conteurs, ce qui a permis de m'engager notamment et donc d'organiser ici pour nos 15 ans quelques activités pour promouvoir les conteurs en Belgique qui ont le statut d'artiste depuis peu en fait. Chez nous, tous les autres artistes ont un statut. C'est un peu l'équivalent des intermittents en France, mais donc ils ont droit au chômage quelque part. Et quand ils ont un contrat, ils doivent remplir des cases. Et ils sont, ils ont il y a des secrétariats sociaux qui s'occupent spécialement de leur statut et de les rémunérer et de leur fournir les contrats à ceux qui programment les conteurs. Et donc ça leur permet effectivement de vivre de ça professionnellement. Et donc c'est vraiment un des grands... une grande revendication, une grande mission de la Fédération des conteurs, c'est justement de leur permettre de vivre de leur art, reconnu depuis peu, en fait.
Voilà. Oui. Ça dépend, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, ça dépend des pays. Chez nous, il n'y a pas cette reconnaissance comme telle du métier. Reconnaissance, mais pour ce qui est d'avantages fiscaux, on n'a pas ces programmes-là. Il n'y a pas, par exemple, comme en France, les intermittents du spectacle ou comme les programmes dont vous parlez, Sabine. Il n'y a pas ça chez nous. Alors, comme on disait tout à l'heure, avant l'entrevue, chez nous, vous me demandiez, qu'est-ce qu'ils font les comptables? Chez nous, ils se débrouillent. Ils doivent trouver une manière. C'est beaucoup plus nord-américain hein, comme façon de faire.
Oui, ici, l'État aide beaucoup plus, peut-être.
L'État va être... Mais chez nous, c'est ça. C'est différent. On est nord-américain, nous, hein? On n'est ni européen, ni totalement américain. On a une influence européenne, française, sociale, avec toutes sortes de programmes sociaux, contrairement aux États-Unis où c'est très restreint, tous ces programmes-là. Et je ne sais pas, juste à titre d'information anecdotique, si on veut, aux États-Unis, il n'y a rien, mais alors rien des programmes sociaux dont on parle pour l'aide aux artistes. Là-bas, si vous n'êtes pas capable de vendre des billets pour remplir une salle, faites d'autres choses.
Ouais.
Point, c'est tout.
C'est horriblement mauvais, mais en fait, quelque part, est-ce qu'on ne peut pas penser aussi que si l'aide n'est pas là, on attrape un caractère de combattant et de battant à vouloir dire, voilà, je me bats pour m'en sortir et donc je travaille plus, j'approfondis.
C'est un côté combattant, mais commercial aussi. Hein.
Oui.
Donc il faut se vendre.
Il faut se vendre, oui. Il faut savoir se vendre.
C'est présent tout le temps.
C'est présent tout le temps.
Qu'il y a un programme ou qu'il n'y en a pas, le programme, bon, il faut se qualifier, si on veut, comme artiste professionnel, se faire reconnaître. Alors, c'est sûr qu'il faut avoir au départ une certaine attitude de combattant parce que ce sont des métiers qui dépendent beaucoup de la personne, qui dépendent de nous. C'est pas vrai que ça va venir comme ça. Il faut être présent, il faut travailler son art. Donc, c'est au départ une espèce de démarche de combattant. C'est pas quelque chose de facile, là. C'est pas comme quelqu'un qui a un emploi, qui est engagé, qui a un contrat. C'est complètement différent, là, comme approche.
Alors, une petite question pour vous deux, parce que s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui aimeraient bien faire du compte, qui viennent au stage, mais quels sont les pièges à éviter à la base si on veut devenir compteur avec cette force, ce caractère de vouloir le faire pour arriver à quelque chose de convenable, tout en étant aidé chez nous avec les 15 ans de la fédération? Est-ce qu'il y a un petit conseil à donner ?
C'est pas spécialement des pièges à éviter, mais c'est plutôt des trucs à avoir.
Voilà, oui, c'est peut-être mieux.
Il faut rentrer dans des réseaux aussi. C'est pour ça que la fédération est là, d'ailleurs. Il y a une entraide. Bon, Chigny, ici, c'est vraiment le rendez-vous des compteurs. Et donc, ça permet aux compteurs de se dire, de rencontrer aussi des programmateurs, puisqu'il y a toute une série de salles, de festivals, de bibliothèques, centres culturels, etc., qui... Et les écoles aussi, qui sont un grand pourvoyeur de contrats, en fait. Oui. Et donc ça, c'est très important, évidemment. C'est ça qui fait vivre les artistes, les compteurs. J'imagine que chez vous, c'est pareil. Hein.
Oui, c'est la même chose. Chez nous, si un compteur, à moins d'être vraiment une très grande vedette, mais la majorité des compteurs, s'ils veulent vivre de leur art, doivent accepter de travailler dans les écoles. Parce que, c'est ce qui donne... C'est le travail un petit peu régulier qu'on va avoir durant l'année. Moi, si j'avais un conseil à dire, c'est pas de tout mettre ses œufs dans le même panier. Je vois mal les yeux dans le panier. C'est-à-dire, si c'est possible de garder... une façon de gagner sa vie autre, et de combiner, parce que c'est un métier d'artiste, hein? Ça fluctue, ça peut être une mode, ça peut être, on sait pas, parce que moi j'ai observé au fil des décennies, beaucoup de compteurs, beaucoup de carrières, c'est pas facile, là, c'est pas donné, donc pour se maintenir dans le milieu et vraiment réussir à vivre de ça, il faut se démarquer beaucoup. Moi, j'ai toujours conseillé aux compteurs, surtout qui commencent tout ça, de garder plus qu'une corde à son arc, de pouvoir faire autre chose en même temps, tout en gardant une disponibilité. Mais moi, de ceux qui disent « Ah, je veux devenir compteur, j'arrête tout, je me consacre à ça, je travaille. C'est un métier d'artiste. Les contrats, il faut qu'on vous demande, il faut... Et c'est pas tout de dire « Je suis prêt à travailler, là. » Il faut que quelqu'un dise « OK, j'aime bien ton truc, ça devrait marcher chez nous. » voilà. Donc, c'est pas... il y a des gens qui viennent « moi, être compteur, c'est comme un rêve. » Je le comprends, c'est vrai. Il y a quelque chose d'assez enchanteur, je dirais, l'idée de dire « Je suis un compteur. » Gagner sa vie en racontant des histoires, quand on y pense comme il faut, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire ça. Les politiciens, oui, mais c'est pas le même genre d'histoire. Blague à part, c'est comme tous les métiers d'artiste. C'est instable. Il faut y aller prudemment, bien connaître ses capacités, son art, et puis voir comment ça se présente dans le milieu.
Voilà. Et toi, Sabine, depuis 15 ans que la fédération existe, est-ce que tu vois les compteurs vivre mieux ou alors de plus en plus viennent vous voir, se collent à ce projet, à cette initiative?
Et c'est un peu comme Marc mm-hmm. dit, c'est très dur. Il y en a qui ont une ASBL, donc qui arrivent avec les contrats dont j'ai expliqué tout à l'heure, avec le statut d'artiste, mm-hmm. à s'en sortir comme ça. Mais il y a une bonne partie qui soit enseigne, soit font des animations, soit dans les bibliothèques aussi. Donc y a, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui combinent autre chose. Ouais. Mais il faut se dire qu'il y a beaucoup de femmes aussi. Donc elles ont peut-être...
Oui.
Voilà, elles ont souvent quelqu'un qui les aide aussi. Mm-hmm. Ou alors pas mal de pensionnés aussi. Ça, c'est aussi un moyen aussi d'avoir plus de liberté, ouais, effectivement, ouais, de pouvoir se permettre ce luxe, quelque part, de vivre de ça. Ouais. Mais, ou alors vivre très chichement. Ça, c'est aussi se contenter de peu. Voilà. Ça, c'est, quand on aime quelque chose et quand on le veut et qu'on est un peu doué pour le faire et qu'on y met le paquet, ben, on y arrive. Mais ouais. c'est des sacrifices.
C'est pas donné.
C'est pas donné, voilà.
C'est pas donné.
Non, mais c'est mm-hmm. dans tous les arts comme ça, hein, les ouais. plasticiens ouais, aussi, plus, les comédiens partout. Mm-hmm. Voilà. Ah. Alors, il y en a quelques-uns qui sont très très bons et qui arrivent à en vivre, mais c'est 10%, je pense.
Tout juste.
Mm. Alors, j'aimerais bien te convier quelque chose, un petit secret que quelqu'un m'a dit dans la semaine, enfin hier, elle s'appelle Sabine, il y a un spectacle qui va se faire à Chimère, c'est ça, Sabine?
C'est pas un spectacle, c'est un festival.
Un festival, pardon, oui, pardon.
Donc c'est un nouveau festival qu'on a créé justement pour promouvoir les compteurs de la fédération, ouais. Donc ils sont 55 là actuellement, donc chaque année on a 2-3 compteurs en plus. Et donc pour les promouvoir, on a décidé de créer un nouveau festival à Braine-le-Comte, pas loin de Bruxelles, en coproduction avec le centre culturel de Braine-le-Comte. Et donc pendant 4 jours, on va présenter 25 spectacles. Et l'objectif, c'est d'inviter des programmateurs, des nouveaux programmateurs aussi, à venir découvrir la richesse du conte, la richesse de nos conteurs, et la diversité de leurs talents aussi, et surtout aussi changer l'idée que les gens ont du conte, parce que la plupart des gens, c'est encore l'idée des contes de fées pour enfants, mais pas du tout, ils ne se rendent pas du tout compte de toute la diversité et de la qualité. Et la plupart des contes, d'ailleurs, sont pour adultes plutôt que pour enfants. Je ne sais pas si chez vous c'est pareil aussi, qu'il y a encore cette idée inscrite dans les mentalités. Et donc, quand moi je parle de Chimère, les gens me disent « Ah oui, mais tu vas avoir combien d'enfants ?» Je dis « Mais non, ce n'est pas les enfants, c'est les parents. » Et les contes s'adressent d'abord aux parents. Et puis il y a plusieurs degrés. Les enfants comprendront à leur degré, les parents à un autre degré. Et chacun, en fait, en tire un petit peu ce qu'il aime. Mais en plus, ce qui est très chouette, c'est qu'un conteur n'est pas un autre. C'est tellement différent. Ça fait un an que je travaille pour la fédération, que je découvre un petit peu l'univers du conte et mmh. tous les conteurs. Et il n'y a pas deux conteurs ni deux contes pareils. Oui, oui. Alors de plus en plus, effectivement, ils se professionnalisent. Ça, c'est une tendance. C'est-à-dire que ils utilisent des régies, des lumières, de la musique. Ça devient des vrais spectacles qui ont besoin de tout un de salles équipées, etc. Et donc, dans ce sens-là, oui, il y a une progression aussi importante. Mais ça reste aussi un art particulier puisqu'il permet aussi d'être très accessible à tous les publics, justement, et aussi dans tous les lieux. Ce que peut, par exemple, les comédiens qui sont les plus proches n'ont pas, c'est que ils peuvent aussi bien aller se faire une balade dehors, une balade comptée, qu'une veillée autour du feu chez l'habitant, ou bien vraiment aller dans une salle de théâtre, quoi. Donc voilà.
Tout ça, ça va prendre le compte. À quelle période?
Alors, ça va se faire maintenant, donc à la rentrée de septembre, du 12 au 15 septembre, donc jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Jeudi et vendredi étant plus dédiés aux écoles, mmh. Tout en ayant des spectacles en soirée pour les adultes et tout public, et donc le samedi et le dimanche pour les familles et tout le monde, quoi.
Bon, ben Marc, l'appel est lancé, hein,
donc on invite très bien, avec grand plaisir, Marc, à venir découvrir nos talents et nos conteurs pour qu'ils puissent venir chez vous et faire des échanges aussi, et accueillir des conteurs québécois en Belgique. Bon, voilà.
Oui. Ben, je pense que c'est très intéressant comme démarche, hein, et puis c'est un peu, on parlait de conseils tout à l'heure, c'est un peu la manière de procéder, quoi. Mm-hmm. C'est de se faire connaître, de faire connaître ses conteurs, de les faire entendre, quoi.
Voilà.
Et d'essayer essayer d'attirer des gens qui sont susceptibles après d'être demandeurs de ce type de rencontre. Et moi, ce que je trouvais aussi dans la professionnalisation, il n'y a pas juste le spectacle qui se travaille avec metteur en scène, avec lumière, tout ça. Le conte a ceci de particulier, je trouve, c'est que c'est un art qui s'adapte à toutes les conditions et on peut très bien, je sais pas moi, s'installer ici devant la roulotte de la radio de décider, se mettre à compter et de faire un spectacle. Dans les écoles, les conteurs peuvent se déplacer. S'ils vont au théâtre, ils sont obligés de prendre les bus, c'est des gros déplacements. Tandis que là, le conte, c'est vraiment au niveau d'une communication qui s'établit, mais qui peut se faire, je sais pas moi, dans une classe, dans une bibliothèque. Donc, il y a ce côté très intime que le conte permet, qui est assez unique, je trouve, et qu'il faut garder, quoi. Mm-hmm. Alors, le conteur peut se produire aussi sans musicien, sans costume, raconter.
Ce qui est aussi particulier au conte, c'est qu'il s'adapte au public très fort et au contexte. Donc, par exemple, il va conter... Bon, là, on vient de faire une marche de conteurs. On a été compté dans les villages pour arriver à Chigny hier. Mm-hmm. Et donc, on a improvisé chaque fois les spectacles le soir. Ils étaient à plusieurs conteurs par village ou par endroit. Donc, on a par exemple compté au musée Gaumet. Et donc, ils ont compté dans les salles en prenant, par exemple, il y avait un squelette quelque part. Bon, on a improvisé une histoire de squelette. Mm-hmm. Puis, on a été au musée au Centre d'art contemporain du Luxembourg à la Vieille Forge. Ben, là aussi, c'était un conteur qui venait de Gaume, qui a raconté des histoires sur la Gaume, etc. Donc, il y a le moyen de s'adapter non seulement au lieu, mais aussi, parce qu'ils ont une réserve d'histoire, ou bien ils improvisent aussi pas mal. Et puis au public, si c'est des enfants, ben, ils vont peut-être s'adapter aux enfants, puis au type de public qu'il y a, et à la connexion qu'il y a, etc. Donc ça, c'est très particulier,
oui,
effectivement.
Oui, oui, ouais. Oui, oui. Et des fois, ça peut se décider à la toute dernière minute. Effectivement, ça fait partie de la formation, si on veut, d'un conteur, que d'avoir un répertoire qui lui permet justement de s'adapter.
D'avoir cette souplesse.
Oui, oui, oui. Bon, il y a des petits, bon, ça demande un autre type d'histoire. Il y a des adultes, moi je sais que j'avais quelques histoires où il y avait des morts là-dedans, puis des vrais. Des fois je faisais attention, je regardais toujours qui était dans la salle, là, pour avaler une histoire comme celle-là.
Oui, bon, c'est comme les contes coquins, ils en ont de plus en plus aussi, ça plaît pas mal aussi. Ouais. Mais donc là, s'il y a des enfants, effectivement, il faut faire attention.
Eh bien, écoutez, c'est sur ce final que l'on va, on va laisser les auditeurs aussi à vouloir venir et à venir au festival, parce qu'il y a encore du beau monde qui va passer. Il y en a encore plein, et demain, c'est aussi intéressant. En tout cas, Marc, merci d'être venu. Sabine, merci d'être venue.
Oui, mais et ceux qui n'arrivent pas à venir aujourd'hui ou demain à Chigny, ben donc rendez-vous
en septembre.
Du 12 au 15 septembre à Chimère. Et s'ils veulent des informations, ils peuvent aller voir sur notre site qui est www.conteur.be.
Et toi, du côté de Montréal, ça marche toujours?
Il y a un site? Oui. Bah, c'est Festival Conte Montréal Québec. Vous tombez dessus. Là, et il fonctionne encore très bien. Beaucoup de public, une belle réponse du public, voilà.
Mais merci en tout cas, Jeff.
Veux-tu une histoire?
Écoute, je n'osais pas te le demander.
Mais je te l'avais dit avant, si jamais tu voulais. Là, c'est le conteur qui demande, veux-tu une histoire?
Mais oui, je veux une histoire.
Alors, rapidement, un jour, deux voisins qui habitaient un côté de l'autre, des voisins, des vrais voisins, sauf qu'ils ne s'entendaient pas sur la limite du terrain. Il y avait un ruisseau qui était là, qui avait... Un disait, c'est là, moi je le sais, c'est cette pierre. En bref, il n'y avait rien à faire, ça faisait des années que ça durait, il ne pouvait plus se parler seulement, tellement il ne s'entendait pas. Quand un jour, chez un des voisins, ça frappe à la porte. L'homme ouvre, et il y avait là un homme en habit de travail, qui dit « Bonjour monsieur, très poli, je sais faire à peu près tout de mes mains, est-ce que vous avez du travail pour moi? » Ah ben, le voisin, Il dit, tu tombes bien, mon ami, parce que j'ai un voisin avec qui je peux pas m'entendre, la limite du terrain, et il vous raconte exactement, il explique toute la situation. Alors, il dit, moi, ce que je voudrais, c'est que vous me construisiez une clôture, juste ici, parce que moi, je le sais où est la limite du terrain, et elle est ici. Alors, on va mettre une clôture, comme ça, on va être tranquilles tous les deux. Mais je sais pas comment mon voisin va réagir. Il est imprévisible. Alors, moi, je m'en vais et je vais revenir quand ça va être terminé. L'ouvrier commence à travailler, plante, piquet, planche. Là, l'autre voisin à côté sort. Il fulminait, il s'approche et dit, « Qu'est-ce qu'il vous a demandé de faire encore, ça? » Et ben, écoutez, monsieur, votre voisin m'a expliqué la situation et il m'a demandé de construire un pont, une passerelle. Comment? Ah bon? Alors, fini de construire. L'autre voisin revient. Il voit ça. Il était découragé. Il avait demandé une clôture. Il se retrouve face à une jolie passerelle au-dessus du ruisseau. Il s'approche de l'ouvrier, il est après, là. Il était furieux, enragé, noir. Quand tout d'un coup, l'autre voisin sort, s'approche, la main tendue. « Quelle idée extraordinaire t'as eue! » Moi, je pensais, écoute, je voulais faire un mur entre nos deux terrains tellement j'en avais assez de cette situation. Et toi, t'as eu l'idée de faire une passerelle. Maintenant, on va pouvoir profiter du ruisseau, des fleurs. Là. C'est génial, vraiment extraordinaire. Bon, le premier voisin se calme un peu. On va voir l'ouvrier, lui dit, « Ouais, c'était une bonne idée. » On ne s'était pas parlé depuis 10 ans. Puis là, il est venu me serrer la main. « Alors, écoutez, monsieur, est-ce que je peux vous proposer de rester ici? On a beaucoup de travail, on est vieux, on a des grands terrains, on a beaucoup de travail. Il y a une petite maison là-bas, vous pourriez vous installer là, on pourrait vous payer. » Et là, l'ouvrier lui dit, « Ah, mais écoutez, c'est vraiment gentil de votre part. Je l'apprécie énormément. Mais vous savez, je ne peux pas accepter votre offre. Je dois continuer mon chemin parce qu'il me reste beaucoup de ponts à construire. »